franceinter.fr.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un article qui en 1993 a déclenché une tempête médiatique. Un papier publié dans l'Idiot International, journal dirigé par l'écrivain pamphlétaire Jean Edernalier. Titré « Vers un front national, il sème le trouble ». Cet article, qui théorise les convergences entre l'extrême gauche et l'extrême droite, entre les communistes et les nationalistes, invente une nouvelle couleur politique, le rouge-brun. À cette époque, le paysage politique français est structuré en deux pôles, bien identifiés, la droite et la gauche. D'un côté, le RPR de Jacques Chirac, ancien Premier ministre, et l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, bordé par un front national plus remuant que crédible. De l'autre, le Parti socialiste, dominé par la figure de François Mitterrand, bien sûr, triomphalement réélu président de la République en 1988, secondé par un parti communiste encore représentatif d'une classe sociale. Mais bientôt, le monde politique se brouille. La chute du mur de Berlin dégage de nouveaux terrains de débat entre camps traditionnellement opposés. Des voies de circulation s'ouvrent entre milieux d'extrême droite et milieux communistes. Le PC, qui va perdre le monopole de la contestation sociale et politique au profit d'une extrême droite de plus en plus ambitieuse, cherche chez son ennemi de nouvelles alliances. Un mélange explosif dont le journal L'Idiot International devient le laboratoire. C'est tout cela que l'article titré « Vers un front national » révèle, et c'est ainsi qu'il déclenche un scandale. En seconde partie de l'émission, nous recevrons le journaliste François Bonnet, l'un des fondateurs du site Mediapart, dont il dirige aujourd'hui la rédaction. Il était à Libé du temps de l'Idiot International, il a enquêté et écrit sur cette affaire. Affaires sensibles, une émission de France Inter, préparée par Hervé Marchon avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Simon Maisonneuve, réalisation Fabrice L'Aigle, à la technique aujourd'hui Lucas Vaillant.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Mai 1993, la France vit à l'heure d'une droite qui reprend des couleurs après sa large victoire aux élections législatives de mars. Avec 472 députés, le RPR de Jacques Chirac et l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing détiennent 81% des sièges à l'Assemblée nationale. Le président de la République, François Mitterrand, nomme Édouard Balladur Premier ministre. C'est la deuxième cohabitation. Charles Pasqua redevient ministre de l'Intérieur, Alain Juppé ministre des Affaires étrangères, Nicolas Sarkozy du Budget, François Fillon de l'Enseignement supérieur. Un retour qui fleure bon la Restauration. Ils sont tous là, les grands fauves de la droite triomphante, dans un gouvernement qui ne compte que trois femmes, dont Simone Veil. Par effet de balancier démocratique, la gauche est écrasée. Le Parti socialiste ne compte plus que 57 députés contre 275 sous la précédente législature. Le Parti communiste, lui, en a 23. Bientôt, Pierre Bérégovoy, premier ministre du précédent gouvernement socialiste, poursuivi pour une polémique à propos d'un prêt, se suicidera à Nevers sur la berge du canal de la Jonction, le 1er mai. Ailleurs dans le monde, Bill Clinton est investi président des États-Unis. Croatie, Serbie, Slovénie et Bosnie-Herzégovine s'enflamment. Les guerres en Yougoslavie s'éparpillent sur un territoire émietté qui ne tenait plus que grâce au communisme version Tito. Un peu plus à l'est, l'URSS n'existe plus, remplacée par une CEI, Confédération des États indépendants, qui ne vivra pas longtemps. Après la chute du mur de Berlin, le bloc des pays de l'Est s'effondre. Voilà, c'est dans ce monde, en pleine recomposition, dans cette France où la gauche et ses idées sont minoritaires, que paraît dans le journal pamphlétaire L'Idiot International un édito au ton brutal titré « Vers un front national ». Un article qui passe d'abord inaperçu, c'est vrai, mais après, il fait scandale. Extrait.
La gauche, en France, c'est fini. Pour toujours. Et c'est bien. Quoi la gauche ? Idées sucées, espoirs sodomisés, rêves violés, roulés dans le béton de la mort blanche. Ôtez les fanfreluches crasseuses de la modernité. Le cul de la vieille gauche est nu. Absolument, totalement, définitivement et radicalement nu. En fait, même plus un cul. Ni peau, ni chair, ni eau. Pas de mémoire, pas d'idée, pas de principe. Un trou, sans bord, sans fond et sans couleur. Pas de valeur, pas de pensée, pas d'analyse. pas de bilan, pas d'issue, pas de perspective. Rien, mais rien. Et c'est très bien. Nettoyage.
Le ton est rude, violent, grossier, c'est une vitupération. L'article dénonce la bourse de Francfort, Wall Street, le sionisme international et les nains de Tokyo. Magouille, déchirement, échec, corruption politique, criminalité organisée, peur sur les villes, mafia. Le vocabulaire excessif est celui de l'extrême droite qui pollue le débat politique depuis ses premiers succès électoraux au début des années 80. L'auteur de cet article est pourtant loin d'être classé à droite. Il s'appelle Jean-Paul Cruz, ancien membre de la gauche prolétarienne, syndicaliste SNJ-CGT, membre de la rédaction de Libération, dont il est l'un des fondateurs. C'est donc lui, le signataire de cet édito qui se déploie sur une demi-page et qui appelle à un violent sursaut de nationalisme industriel et culturel.
Sur ce terrain, Pasqua, Chevènement, les communistes et les ultranationalistes, que le destin va bientôt débarrasser de la grosse poufiasse blonde marionnettisée par l'Élysée, vont se trouver plus proches les uns des autres que Marché de Mitterrand, qui est mort, de Fabius, de Lalonde ou de Rocard d'Estaing. C'est un front qui se forge et qui se forgera, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans une dynamique de redressement, de dépassement, d'effort de citoyens lucides, contre la logique de la crise, de soumission, d'avilissement et d'éclatement qui déferle sur la planète au rythme du sida. On peut imaginer d'autres temps, d'autres termes de choix, rêver d'autres échappées, d'autres avenirs, d'autres issues. Mais le réel est là et pas ailleurs.
La logorée du journaliste militant plaide en fait, et je le cite, « pour une alliance des communistes et de la droite catholique, nationale, militaire et maurassienne du général de Gaulle. Oui, une alliance de l'extrême gauche et de la droite réactionnaire. » Dans le documentaire titré « L'idiot international, un journal politiquement incorrect » réalisé par Bertrand Delay, produit par Lady Bird et diffusé sur France 5 en janvier dernier, Didier Deninx, auteur de Polar, raconte comment, à l'époque, il a décrypté cet édito.
L'article de Jean-Paul Cruz est à lire ligne après ligne. Il fait référence pendant pratiquement tout l'article au Front National créé par le Parti communiste pour rassembler la résistance à l'envahisseur nazi. Il y a juste un passage où d'un seul coup, il montre les coulisses de son article. Vers les deux tiers, à un moment, il met en scène les forces qui doivent se rassembler pour former un bloc souverainiste. Il dit les communistes, bien sûr, les chevènementistes. Il dit les gaullistes, surtout autour de Pasqua.
Quand il paraît, pourtant, l'article passe assez inaperçu. Il faudra attendre quelques semaines avant qu'un scandale n'éclate. Mais le coup n'est pas parti par hasard et pas de nulle part. Il est né dans un journal, l'Idiot International, dirigé par l'écrivain polémiste Jean Edernalier, qui s'assoit sur les étiquettes politiques.
D'abord, je suis anti-politique et je suis aussi violemment contre la droite que contre la gauche et très violemment contre les classes politiques surtout, que je trouve très ringardes et très dépassées, qui sont à droite comme à gauche, à la remorque de tout, en quelque sorte les lanternes rouges de l'histoire. Alors, je suis profondément, totalement anti-politique. Mais si je devais pencher ou basculer quelque part, ça serait quand même à gauche. Et là, je reproche à la gauche tout simplement de ne pas être de gauche. Je ne suis pas un intellectuel encarté, je ne fais pas le trottoir, je ne suis pas encarté, je fais le trottoir pour personne.
Bouffon, imposteur ou clown, Jean Edernalier a dit tout et son contraire, sans peur d'être contredit, puisque l'insolent c'était lui. Abonné aux propos décapants, il a dézingué tous ses amis devenus ennemis tout au long d'une carrière pavée de provocations et d'excès. Le pamphlétaire, sans scrupule, a tué l'écrivain talentueux qu'il aurait pu être. Après trois romans, il fonde le journal L'Idiot International en 1969, soutenu par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Publication qui fera vite faillite et dont l'essentiel de l'équipe de rédaction rejoindra Libération en 1973. Livres, pamphlets, films, émissions de télé, Jean Edernalier passera sa vie à la mettre en scène. Il organise son propre enlèvement en 1982, il commandite un attentat à la bombe contre Régis Debray en 83, il se bat sur les plateaux de télévision, il insulte, il diffame. Enfin, il menace François Mitterrand, tout juste élu président de la République en 1981, de révéler l'existence de sa fille naturelle, Mazarine, ses liens avec le régime de Vichy et son cancer. Alors, une haine réciproque naît entre les deux hommes. Elle vaudra à l'écrivain d'être ostracisé par les socialistes, surveillé par le pouvoir, écouté par l'Élysée. Cette haine structurera les engagements des années 80 et 90 de l'écrivain. Il trouvera bientôt des alliés de circonstances pour l'exercer. Et puis, le 9 novembre 1989, à 20h, les auditeurs de France Inter entendent cette information.
Bonsoir, historique, l'Allemagne de l'Est annonce ce soir l'ouverture totale de ses frontières pour les candidats à l'immigration avec la RFA et Berlin-Ouest, tant pour les candidats à l'exil que pour les voyages privés. La mesure est effective immédiatement. L'un des membres du nouveau bureau politique vient de l'annoncer. En clair, c'est la fin du mur de Berlin qui est annoncée ce soir.
La chute du mur de Berlin, c'est l'écroulement d'un mythe. Même si son secrétaire général, Georges Marchais, croit que l'avenir n'appartient pas au capitalisme, le Parti communiste français est en ruine. Incapable de se rénover, toujours fidèle et loyal à l'URSS, poussé dans ses retranchements par le Parti socialiste, il a perdu en 10 ans 3 millions d'électeurs. Il a aussi perdu le soutien des artistes et des écrivains qui lui avaient permis de dominer la vie intellectuelle française d'après-guerre. Affaibli, son existence est remise en cause. Pour reconquérir la jeunesse et les intellectuels, les dirigeants du Parti communiste vont chercher Jean et Dernallier, justement l'histrion anarchiste, qui quelques mois plus tôt a relancé son journal.
Jean et Dernallier tentent de ressusciter l'Idiot International, un journal apparu il y a 15 ans dans la tourmente de mai 68. Le premier numéro vient d'apparaître dans les kiosques.
Comme nous ne sommes pas un journal bourgeois, comme nous sommes un journal de la jeunesse, nous dirons avec habileté n'importe quoi.
Jean et Dernallier débarquent dans le sérail. Son créneau à lui, c'est la dérision du 21e siècle. Bref, les gros sabots des Dernes dans la mare du canard, gaffe aux tâches.
C'est un canard enchaîné haut de gamme que notre journal. Quelque chose pour apporter un peu de vent nouveau en un temps où les classes politiques et la nation sont de plus en plus séparées.
Jean et Dernallier vouent une détestation absolue à François Mitterrand. Le PC qui a rejoint l'opposition en 1984 aussi. Jean et Dernallier est écrasé par les dettes et les procès. Le Parti communiste va lui fournir de l'argent et mettre ses extraordinaires moyens militants à son service. L'écrivain part d'abord en service commandé par le Parti communiste à Cuba pour en rapporter un livre à la gloire de Fidel Castro. Publié en 1990 chez Messidor, la maison d'édition du Parti, « Conversation au clair de lune », c'est son titre, glorifie en une certaine page tous les poncifs de la propagande cubaine. L'auteur qui a touché un avaloir considérable pour l'époque, 500 000 francs, soit près de 120 000 euros aujourd'hui, respecte son contrat. L'Idiot International est relancé sous financement communiste, il tire à 100 000 exemplaires et on le vend dans les manifs de la CGT. Enfin, Marc Cohen, membre de longue date du PCF et proche du directeur de l'Humanité, le quotidien communiste, en est le rédacteur en chef. Les ambitions de Jean et Dernallier pour son journal peuvent donc devenir réalité.
L'Idiot International est un journal qui a la prétention de s'adresser directement à la postérité. L'Idiot International, je rappelle une chose, je termine, je veux terminer, je veux terminer. Je veux dire simplement une chose, c'est que la presse est aussi magnifique, c'est admirable. Je veux une vérité qui crie, une vérité d'indignation, une vérité qui chante, une presse qui soit aussi un poème, une presse qui soit aussi, qui aille au fond de la compassion humaine. Et la presse, c'est aussi une femme, un journal, ça se désir. Je veux un journal imprévisible, je veux un journal qu'on désire, et pas le journal dans lequel on sait d'avance ce qu'il va y avoir dedans. Et voilà ce que la presse aujourd'hui, elle est terriblement imprévisible.
Imprévisible, l'Idiot International le sera. Son équipe de rédaction, par exemple, qui est ouverte à tous les vents, toutes les opinions, toutes les tendances. On y croise Jacques Dimet et Christian Laborde du journal Révolution, l'écrivain Patrick Besson, collaborateur de l'Humanité, l'auteur d'extrême droite Marc-Édouard Nab, Basile Lecoq, animateur du groupe Jalon et collaborateur occasionnel de Charles Pasqua, Philippe Solers, Jacques Vergès, Gilbert Collard, alors au PS, Alain Soral, encore encarté au PC, mais aussi Michel Houellebecq, Thierry Ardisson, Frédéric Becbédé, Thierry Séchant, le frère de Renaud. Frédéric Taddeï, un brassage inédit qui a de quoi désorienter le premier politologue venu. Et les réunions de rédaction ressemblent plus à des cocktails qu'à des séances de travail. Cet attelage hétéroclite et anticonformiste critique la mondialisation, le libéralisme, la social-démocratie, l'Union européenne, la finance et tous les puissants. Un premier événement va souder encore plus l'équipe et commencer à faire sauter les clivages politiques.
Je suis l'ami, l'ami des mouches, les seules femelles que je n'effarouche. Quand ça va mal, je frappe un chien, ça fait du bruit, ça fait du bien car je suis
idiot,
oui vraiment
idiot.
Je suis un
idiot,
complètement
idiot.
Papa m'a dit idiot, maman m'a dit idiot, mon frère m'a dit
idiot,
ma soeur m'a dit
idiot,
mon chapeau m'a dit
idiot,
mon vélo m'a dit
idiot.
Mon pantalon me dit, mes amis me disent, moi-même je dis, mes oreilles me disent, mes yeux me disent, mes cheveux me disent.
Bonjour, c'est la guerre dans le Golfe, vous le savez maintenant, si vous écoutez France Inter, ce n'est pas une surprise. Les hostilités ont démarré à 1h, heure de Paris, par une opération aérienne massive menée par l'aviation américaine sur le territoire irakien et au Koweït. La Grande-Bretagne, le Koweït et l'Arabie Saoudite ont été engagés dans cette opération qui a regroupé plusieurs centaines d'avions. Bagdad, la capitale irakienne, a été touchée et l'état-major américain semble très satisfait pour l'instant des objectifs stratégiques. Le Pentagone dit s'être débarrassé des principales menaces, notamment des sites de missiles braqués sur Israël, des centres de communication, des usines d'armement, des aéroports et bien sûr de l'aviation irakienne.
Le 17 janvier 1991, une coalition militaire internationale menée par les États-Unis et à laquelle participe la France attaque l'Irak, qui a envahi le Koweït 6 mois plus tôt. Sans ambiguïté, sans hésitation, l'idiot international s'oppose à cette guerre au nom de l'anti-impérialisme. Intervenir en Irak, c'est faire de la France un pays vassal des États-Unis, déstabilisateur de toute une région. Une majorité de Français soutient l'intervention militaire, mais un front du refus se construit. Des communistes aux chevènementistes, de la CGT à l'extrême droite, de la LCR jusqu'au Vert. La guerre du Golfe délimite un nouvel espace politique qui se renforce à la faveur d'un deuxième événement. Et là, nous sommes le 1er juillet 1992.
Mes chers compatriotes, j'ai signé ce matin le décret qui soumet à vos suffrages le traité d'Union européenne ou traité de Maastricht. Pourquoi un référendum ? J'aurais pu me contenter de l'approbation du Parlement, où il existe, cela vient d'être démontré, une forte majorité favorable au traité. Mais j'ai pensé que sur un tel sujet, qui engage comme rarement dans notre histoire l'avenir de la France, je devais m'adresser directement à vous.
L'occasion est trop belle pour l'idiot international de dire non à Mitterrand en disant non à Maastricht. Les gens gauches s'opposent à l'Europe au nom de la lutte contre le capitalisme et les gens de droite au nom de la lutte pour la souveraineté nationale. Alors, si les deux extrêmes, droite et gauche, appellent à voter non sans faire entendre de fausses notes, les partis modérés de droite et de gauche sont coupés en deux. Au PS, Jean-Pierre Chevènement, au RPR, Philippe Séguin et Charles Pasqua jouent les dissidents. Sans pudeur, le Parti communiste, lui, leur fait des appels du pied. Comme lors de cette interview télévisée du 22 juillet 1992 où Francette Lazare, membre du bureau politique du PC, parle de rencontres et de préoccupations communes avec la droite.
Alors le débat sur Maastricht vient de commencer. Vous pouvez entendre, il y a le Parti communiste, mais il y a aussi Jean-Marie Le Pen, Philippe Séguin, Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement, Philippe de Villiers. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous trouver des points communs avec tous ces opposants au traité de Maastricht ?
Avec Le Pen, vous le savez bien, radicalement aucun.
Vous ne vous retrouvez pas non plus avec Philippe Séguin ou Charles Pasqua ?
Quand certains réfléchissent à la nation, il y a effectivement une rencontre de préoccupations.
Et avec Jean-Pierre Chevènement,
il y a bien sûr beaucoup de convergences. Mais je crois que la dynamique du non sera faite de l'apport propre de chacun avec toute sa personnalité. C'est précisément pourquoi nous voulons, nous, contribuer à ouvrir en grand la réflexion et le débat pour autre chose.
Malgré ses appels, le 20 septembre 1992, le oui à Maastricht l'emporte d'une très courte majorité, 51%, grâce essentiellement à un François Mitterrand qui a pesé de tout son poids dans la campagne référendaire au cours des dernières semaines. Quelques mois plus tard, en mars 1993, aux élections législatives, en revanche, c'est l'échec du président et du PS. La gauche est battue, décimée même. Elle perd plus de 200 députés. À l'Idiot International, le rédacteur en chef, le communiste Marc Cohen, estime que le terrain est dégagé pour tenter un coup. Il demande à Jean-Paul Cruz, le journaliste de Libération, le syndicaliste SNJ-CGT, d'écrire un article programme pour créer un débat au sein du Parti communiste où la succession du secrétaire général Georges Marchais est ouverte. En lice, les réformistes qui veulent continuer le dialogue avec le PS et les refondateurs menés par Pierre Zarka qui veulent revenir à un marxisme plus dur, voire plus pur. Jean-Paul Cruz est de ceux-là. Il écrit donc son article, titré « Vers un front national » et il le soumet à Pierre Zarka, qui témoigne ici pour le documentaire de Bertrand Delay.
Vers un front national me gêne, moi. Justement parce qu'il y a la confusion possible avec Le Pen. J'ai tendance à penser que chez Jean-Paul Cruz et Marc Cohen, il y avait quelque chose de volontaire, qui n'était pas du tout de l'ordre du ralliement, mais qui était de dire « le front national, c'est pas eux, c'est nous ». C'était l'idée de la résistance. C'était de dire, à situation de reconstruction, il y a des mesures exceptionnelles qu'il faut prendre. Et cette mesure, c'est regarder ce qu'a fait la résistance, regardons ce qu'a fait la résistance, et c'est ça qu'il faut reproduire. Ça me choque pas.
Pierre Zarka demande quelques petits changements à Jean-Paul Cruz, et l'article est publié en première page de l'Idiot International en mai 1993. Personne ne réagit. Sauf un, l'auteur de Polar, Didier Deninx, au micro de José Arthur, c'est sur France Inter, le 6 mai 1993.
Moi, ce qui m'inquiète le plus en tant qu'écrivain, c'est la manière dont la contagion est en train de prendre. On est un groupe d'une dizaine d'écrivains, de journalistes, qui viennent du monde libertaire, qui viennent du Canard enchaîné, de Politis, d'un petit peu tous ces univers, et on observe un petit peu la presse de Le Pen, on observe la presse du Front National. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'écrivains bien en cours dans les maisons d'édition, qui ont failli avoir le Goncourt récemment, qui donnent des interviews à la presse fasciste et qui développent les idées fascistes à l'intérieur de cette presse. Des gens comme Patrick Besson, par exemple, c'est très, très étonnant quand on cite ces noms-là. Ou alors Thierry Séchant, qui développe aussi des idées antisémites dans les journaux du Front National. Et là, il y a une contagion, c'est-à-dire des gens qu'on ne s'attendait pas à porter ces discours-là, qui commencent à les porter actuellement. Et donc là, pour moi, c'est une espèce de sonnette très très stridente comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un glissement qui est en train de s'opérer actuellement dans la société française et dans les couches intellectuelles.
Ex-adhérent du PCF, Didier Deninx surveille depuis 4 ans les contacts entre l'extrême droite et le PC. Il alerte le Canard enchaîné qui, le 23 juin, accuse l'extrême droite de draguer dans les eaux communistes. La campagne de presse commence. Libération et Le Monde embrayent et dénoncent la galaxie nationale bolchevique pour l'un et la tentation nationale communiste pour l'autre. Sur France Culture, et Louis Plenel, le journaliste du quotidien du soir qui a signé les articles à charge contre l'Idiot International, attaque.
Les communistes complaisants, en l'occurrence, je crois qu'on l'a montré, c'est carrément la direction du Parti communiste qui... Parce que c'est pas quelques lampistes, hein. Les gens qui se trouvaient à l'Idiot International, ils sont sur ordre, hein. C'est pas un acte individuel. Bon... Alors, ce parti a pas fait sa mue. Il a pas fait sa mue. Bon, tout ce que nous soulevons aujourd'hui a été dénoncé par des communistes au sein du Parti communiste, notamment par les rénovateurs, ceux qui sont avec Fitterman, etc. Bon, donc, c'est un truc d'apprenti sorcier. Je dirais, c'est des gens qui pensent... Je calomnie en disant ça, mais c'est de la même manière qu'on a pu justifier le pacte germano-soviétique. Hein. Alors... Maintenant, tous les rats quittent le navire. C'est-à-dire tout le monde dit, bah oui, c'est pas bien cette histoire du national-communisme prônée par l'Idiot, les articles qu'on a sortis de cet écrivain franco-russe Limonov qui prône une alliance rouge-brun. Ça a été écrit dans l'Idiot, rouge-brun.
Oui, rouge-brun, l'expression est lâchée. Elle éclaire d'une nouvelle lumière inquiétante la scène politique. Si pour Edwin Plenel, l'article « Vers un front national » jette les bases d'un rapprochement entre communistes et extrême droite, pour Jean-Paul Cruz, son auteur, il s'agit plutôt de l'émergence d'un front du refus sans aucune logique d'appareil partisan. Le Front national auquel il fait référence est celui qui a uni les communistes et les gaullistes dans la résistance. Mais personne ne veut le croire. À Libération, où Jean-Paul Cruz est journaliste, délégué syndical et élu au conseil de surveillance, l'article crée des remous, forcément. Et la direction, d'ailleurs, lui demande de quitter le journal. Il refuse.
«
La presse cherche à réunir les preuves d'une alliance nationale communiste. Elle trouve Édouard Limonov, effectivement, écrivain russe exilé en France depuis 1974, collaborateur de l'Idiot International, qui a combattu à Sarajevo aux côtés des ultranationalistes serbes et qui, en France, était membre du comité de parrainage des candidats communistes aux législatives. Les médias remarquent Alain Sanders, rédacteur au quotidien Le Péniste présent, qui fait aussi partie du comité de rédaction de l'Idiot. Elle se souvient d'une interview à François en 92 de Jean Edernalier, lui l'admirateur de Castro, qui annonçait son vote pour Jean-Marie Le Pen à une prochaine élection présidentielle, et d'un autre entretien au Monde en 1991 où il déclare qu'il faut réconcilier Doriot et Thorez, oui, Doriot, député communiste exclu du PC en 1934 qui rallia le fascisme et qui fut l'une des figures de la collaboration. Thorez, lui, était secrétaire général d'un parti communiste français totalement dévoué à Staline. La presse relève aussi les soutiens de l'extrême droite à l'Idiot International quand il est attaqué, les entretiens de ses collaborateurs à la presse Le Péniste. Bref, toutes ces passerelles entre gauche et droite extrême sont répertoriées. Le rouge, brun, éclabousse. En août 1993, Pierre-André Taguieff, philosophe et historien spécialiste du populisme, de la Nouvelle Droite et du Front National, dénonce alors une chasse aux sorcières digne du maccartisme, dont il est d'ailleurs victime.
La fable du national-communiste, d'un danger en France qui serait national-communiste, a été lancée par Le Canard et repris en écho par Le Monde, qui a trouvé là une excellente occasion de criminaliser le petit Idiot International. Il y a une nostalgie de l'antifascisme, du bon antifascisme de nos grands-pères, de l'entre-deux-guerres. C'est-à-dire qu'ils voient les choses par le trou de la serrure, au fond. Et ils veulent refaire les chemins de l'antifascisme, je dirais, de type stalinien. Les complots imaginaires produisent des complots réels. Lorsqu'on pense qu'il y a un complot national-communiste en France, on est amené à comploter pour dénoncer les traîtres, pour dénoncer les agents, les espions, tous ceux qui favorisent ou font le jeu, disons, de l'extrême droite. Depuis environ un an, un certain nombre de dossiers sont envoyés dans les rédactions, dans les administrations, notamment dans les maisons d'édition, dénonçant un certain nombre de gens. Bon, alors je fais partie de ces dizaines de non-suspects qui auraient osé le dialogue, entre guillemets, le dialogue avec, entre guillemets, l'extrême droite. L'extrême droite se réduisant d'ailleurs à Alain de Benoît, celui qui représente le nazi éternel, l'éternel nazi, Alain de Benoît. Si Alain de Benoît n'existait pas, toute cette affaire aurait été impossible. Heureusement, Alain de Benoît existe.
Alain de Benoît, voilà le gros poisson pris dans les mailles du filet des antifascistes. Dirigeant influent et théoricien du GRECE, le groupement de recherche et d'études pour les civilisations européennes, la fameuse nouvelle droite française, il prêche la fin du clivage droite-gauche. Alain de Benoît est collaborateur occasionnel de l'Idiot International. Preuve des porosités entre rouge et brun brandies par ses dénonciateurs, Benoît a été invité un an plus tôt à un colloque organisé à Paris, à la Mutualité, par l'Institut de Recherche Marxiste présidé par Francette Lazare. Oui, Francette Lazare, membre du bureau politique du PC, qui prenait, souvenez-vous, des rencontres de préoccupation avec les souverainistes de droite pendant la campagne du référendum à Maastricht. Peu après, Alain de Benoît rendait la politesse à Marc Cohen, le rédacteur en chef de l'Idiot International, en l'invitant, sous l'égide de la revue d'extrême droite, Élément, à débattre de la recomposition du paysage politique français. La polémique dure quelques semaines. Circonscrite, la charge explosive de l'article de l'Idiot International est déminée. Georges Marchais, lui, ne cherche ni à nier ni à minimiser ses dérives nationales communistes. Il se dira indigné, car entre l'extrême droite et nous, il y a du sang, écrit-il dans une lettre rendue publique par Le Canard enchaîné. Dans l'Humanité, Francette Lazare assume, elle, la responsabilité de l'erreur d'avoir invité Alain de Benoît. Pierre Zarka ne sera pas désigné secrétaire général du PC en janvier 1994. Non, c'est Robert Rue qui remplace Georges Marchais. Jean-Paul Creuse quitte Libération en 1994. Jean Edernalier se débarrasse de lui, de Marc Cohen et de leur mouvance. L'Idiot International ne survivra pas à la polémique. Il publie son dernier numéro au début de l'été 1994. Quant à l'expression rouge-brun, elle surgit épisodiquement dans le débat politique. Dès qu'un homme ou une femme de gauche donne l'impression de se rapprocher de l'extrême droite, elle agit alors comme une tâche infamante.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'idiot international à l'existence et l'existence réelle ou supposée du concept rouge-brun. On va parler avec notre invité, le journaliste François Bonnet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes l'un des fondateurs du site Mediapart dont vous dirigez aujourd'hui la rédaction. Et alors, vous étiez journaliste à Libération du temps de l'affaire qu'on vient de raconter. Ouais. Et j'ai l'article devant moi. C'est vous qui l'avez écrit et il est titré « Les compagnons de route de la galaxie nationale bolchevique ». Si j'en crois votre article, alors y a-t-il eu un complot rouge-brun? Alors le complot, le mot est peut-être un peu fort, mais y a-t-il eu ce qu'on peut appeler un rapprochement rouge-brun à un moment dans notre histoire politique récente?
Oui, parce que il faut se replacer dans le contexte de l'époque que vous avez très bien rappelé. C'est celui d'un parti communiste qui est une sorte de château hanté. Moi, je suivais depuis plusieurs années le parti communiste et il est très, très frappant de voir comment ce parti s'était désintégré en interne. Il restait une direction vieillissante, un Georges Marchais à bout de souffle, et sinon tout le monde était parti. Et dans ce grand vide, dans ce vide intellectuel terrible, ont surgi quelques individus qui ont cru voir leur heure venue, et qui ont joué les apprentis sorciers en essayant d'inventer des recompositions accélérées. Et on croisait sur ce chemin l'homme clé que vous évoquez à la fin de cette première partie, qui est effectivement Alain de Benoît. Et Alain de Benoît avait ce principe et développait cette théorie dite de la périphérie et du centre. La périphérie, c'était la pensée dominante. C'est ce qu'Alain Minc, en son temps, avait défini comme le cercle de la raison. Ça, c'était le centre, pardon. Et puis la périphérie, c'est tous ceux qui tentaient de s'inscrire contre ce qu'on appelait un peu vite ce politiquement correct. Et Alain de Benoît disait, dans cette périphérie, il doit y avoir moyen de discuter. Et ça a rencontré à la fois le désarroi intellectuel et la très grande solitude du Parti communiste. Et en particulier d'un certain nombre de journalistes de la presse communiste. Alors, ce fameux texte de Jean-Paul Cruz, moi je connaissais bien Jean-Paul Cruz, puisque nous étions tous les deux à Libération, journalistes à Libération à l'époque. Ce texte signé Jean-Paul Cruz, il n'y a pas que lui qui l'écrit. Vous faites parler Pierre Zarca, qui effectivement à qui il a été lu, mais il y a par exemple un dénommé Alain Soral, qui a participé...
Voilà, ayant participé à l'idiot. Voilà.
Comme ayant participé à l'idiot, mais qui a participé à l'écriture de ce texte, Alain Soral. Et il aurait été exclu du PCF pour ça, à la suite de ça. Mmh. Alain Soral, qu'on retrouve aujourd'hui au cœur de l'extrême droite, avec Dieudonné, etc.
C'est pour ça que je dis tiens donc.
Voilà. Il y a également des journalistes assez connus. Il y a le directeur de Révolution à l'époque, qui est également membre du comité central, Jean-Paul Jouarry. Il y a Arnaud Spire, qui est quelque part dans le paysage. Il y a Jacques Dimet. Donc il y a toute une série de journalistes intellectuels ou pseudo-intellectuels du Parti communiste qui se disent, l'idéologie communiste est détruite, qu'est-ce qu'on peut reconstruire avec cette question qui par ailleurs déterminait tout, qui était celle de la succession de marchés. Mais vraiment dans un parti communiste qui était dévasté.
Mais pourquoi pour se reconstruire? Ça on peut comprendre, oui, qu'un parti ait envie de se reconstruire avant de mourir, hein, donc
bien
survivre.
Sûr, bien sûr.
Mais pourquoi aller survivre dans les bras d'une idéologie qui, historiquement, en tout cas dans notre histoire récente, est en conflit. Ça, pourquoi aller chercher là, alors, ce que normalement on ne peut pas trouver?
Bien sûr. Alors, une des clés, c'est bien sûr l'anti-impérialisme. Et vous avez rappelé la guerre du Golfe en 91.
Et puis l'Europe, bien sûr.
Et l'autre clé, c'est l'Europe. C'est l'Europe et le traité de Maastricht l'année précédente. Et puis, enfin, troisième clé, c'est la haine farouche de la social-démocratie.
Ouais. Hein,
à partir de là, qu'est-ce qui reste finalement? C'est ces trois raisons de mobilisation. On les retrouve dans ces marges d'un communisme à l'agonie et on les retrouve également au sein de l'extrême droite. Donc, des discussions peuvent s'engager. C'est pour ça que le mot complot est trop fort.
Oui.
Je pense que c'est plus celui,
absolument,
d'une recherche d'alliance tactique, d'un compagnonnage, de voilà, quelqu'un comme Francette Lazare. Très franchement, moi, c'est quelqu'un que j'ai connu. Je pense qu'elle est plus la naïve dans cette affaire et qu'elle se fait manipuler. En revanche, il y a des gens, comme en particulier Marc Cohen, qui est vraiment un des hommes clés de ce dispositif. Marc Cohen, lui, oui, ce sont des apprentis sorciers qui ont des projets politiques qui sont très précis. Voilà d'où cette rencontre avec la droite extrême.
Alors nous serons bien d'accord qu'il s'agit là d'une affaire sensible, hein, pour le coup, c'est, oui, vraiment une affaire très sensible. Il suffit même d'en parler pour se retrouver pris dans espèce de chaos du débat intellectuel très très vif et d'être accusé. On va écouter l'historien spécialiste des populismes, Pierre-André Taguieff. Écoutez ce qu'il dit, on en parlera après.
Un certain nombre de dossiers, de listes de suspects circulent. C'est pourquoi je parlais de maccartisme de gauche ou de gauche académique ou de pseudo-gauche. Depuis environ un an, un certain nombre de dossiers sont envoyés dans les rédactions, dans les administrations, notamment dans les maisons d'édition, dénonçant un certain nombre de gens. Bon, alors je fais partie de ces dizaines de non-suspects qui auraient osé le dialogue avec, entre guillemets, l'extrême droite. Bien d'autres auraient pu l'être à ma place, mais ils n'étaient pas des spécialistes de l'extrême droite et en particulier de la nouvelle droite. Ces vigilants, si vous voulez, se trompent d'ennemis, ne font pas d'analyse de la situation. Lorsque l'on étudie d'un peu près un objet ou un phénomène politiquement suspect, le racisme, le nationalisme, l'eugénisme, que sais-je, ou le nationalisme, ceux qui n'ont aucune idée de cet objet, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas de travaux derrière eux, ont tendance à dénoncer le camarade qui travaille, qui connaît un peu mieux que la chose, en disant « il est fasciné par son objet ». C'est une manière de disqualifier un travail scientifique. Pour comprendre le mode, l'argumentation, disons, raciste ou nationaliste, il faut bien sûr voir des nationalistes et des supposés racistes, de sorte que on prend quelques risques.
Ah, terrain miné, en gros, nous dit d'ailleurs.
Oui, c'est étonnant d'écouter des années plus tard ces déclarations.
Juillet 93.
Juillet 93. Parce que c'est pas du tout ça qui se passe dans ces années-là et à ce moment-là, sur cette histoire précise. Taguieff, effectivement, commence ces années-là à basculer dans sa dénonciation obsessionnelle de l'antiracisme. Mais cette affaire dite rouge-brun ou galaxie nationale bolchevique, c'est une autre affaire. C'est une affaire qui vient frapper au cœur de la matrice intellectuelle du Parti communiste français et de ce qui va commencer à émerger dans l'extrême droite française. Donc je comprends pas bien, et cette dénonciation de supposés contre-complots partout, non. Moi, c'est très simple. Par exemple, à l'époque, je fais cette enquête parce que, si je puis dire, Jean-Paul Cruse, l'auteur de l'article, je l'ai sous la main. Il est à Libération. On se croise tous les jours en réunion de rédaction. Et je sais qu'à Libération, cet article déclenche un tollé, Assemblée Générale, et je, à ce moment-là, en voyant ça, je me mets à enquêter là-dessus. Alors effectivement, je vais rencontrer Didier Daninx, mais moi, ça faisait des années que je travaillais sur le PCF, et j'avais été aussi averti, alerté, par des gens à l'intérieur du Parti communiste qui étaient pendus à la sonnette d'alarme.
Alors, on a parlé d'Alain Benoît tout à l'heure. Ben, on va l'écouter. Alors, c'est encore un témoignage, je dirais, du doc de Bertrand Delay, intitulé « L'idiot international », un journal politiquement incorrect.
Je ne me sens pas en cousinage complet avec le papier de Jean-Paul Cruz, mais je le trouve intéressant parce qu'il est un symptôme. Symptôme du fait que les gens arrêtaient un peu de se regarder en chien de faïence. Symptôme de la possibilité d'un débat. Symptôme du fait que des hommes et des femmes qui avaient eu des itinéraires différents, qui venaient de provenances différentes, ben, finalement se retrouvaient sur des positions communes à la faveur de tel ou tel événement.
Commentaire, on en a parlé tout à l'heure.
Non, effectivement, voilà, c'est un des hommes clés. Oui.
Bien. Alors, dans votre article, hein, que j'ai évidemment lu et relu, Les compagnons de route de la galaxie nationale bolchevique, il n'est pas forcément éditorialisé, hein, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment vous raconter l'histoire, comme nous on a essayé de le faire. Mais enfin, est-ce qu'à l'époque, vous vous êtes dit tout cela est dangereux pour la santé mentale de notre pays ou pas? Est-ce que ça vous inquiétait?
Ce que je ne mesurais pas à l'époque, c'est les prolongements qu'allait avoir sur le long terme cette affaire.
Et c'est là où je voulais
faire
venir.
Parce que moi, à l'époque, je l'ai vécu et je l'ai décrit comme, je dirais, une sorte de symptôme de la crise intellectuelle et idéologique du Parti communiste. Alain de Benoît et le Grèce, je dirais, était une vieille histoire. Alain de Benoît est un homme intelligent, un théoricien intellectuel qu'il ne faut jamais sous-estimer. Il est encore aujourd'hui dans le paysage politique et intellectuel. Donc je me disais, on est surtout dans une affaire communiste. Je ne soupçonnais pas que ce qui allait s'esquisser avec ce texte, on en retrouve quand même aujourd'hui de larges traces et les acteurs sont toujours là.
Alors, on en reparlera de cela, mais je voudrais rester une dernière fois sur les événements donc en 93. Donc, d'après ce que vous me dites, c'est une initiative quand même communiste au départ. Il s'agit de survivre.
Hein. Oui.
Qu'est-ce que ça rapporte à l'extrême droite française?
Alors l'extrême droite française, ça lui apporte quelques ouvertures. Ça ne lui rapporte pas grand-chose parce que cette entreprise est, je dirais surtout, une rencontre avec une extrême droite intellectuelle plus qu'avec le Front National de Jean-Marie Le Pen. Faut pas oublier qu'à l'époque, il n'est pas vraiment question d'alliance avec Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen reste celui qui a bouffé du communiste matin, midi et soir, et celui qui est à l'époque le porte-parole des politiques libérales. Donc la question est plus, on est plus dans une discussion intellectuelle et idéologique avec cette partie de l'extrême droite qui, j'allais dire, est structurée intellectuellement.
Alors, on va arriver à aujourd'hui, promis, pour voir s'il existe des résonances. Je voudrais qu'on écoute une troisième archive, une troisième voix importante dans le débat intellectuel français, c'est la voix d'Edoui Plenel. Hein. Bon, on peut toujours compter sur lui pour s'exprimer quand les affaires sont sensibles. Oui. Là aussi, il s'exprimait, c'était toujours en 93, on écoute.
Mon inquiétude, si vous voulez, c'est que cette question de la nation est au cœur de ça. C'est-à-dire, et elle travaille actuellement toutes les familles politiques. Que vous prenez le RPR avec le débat autour de Seguin et d'autres, que vous prenez la gauche avec le courant Chevènement, que vous prenez le PC, que vous prenez etc. Bon, il y a actuellement la nation devient l'élément qui trouble, qui crée d'autres clivages, d'autres passerelles, regroupements, etc. Bon, alors je mets pas tout le monde dans le même sac, hein, mais je pense profondément qu'il y a une régression actuellement, qui est ok, avoir une identité, avoir un enracinement, c'est pas mon truc, la terre dans le ventre, etc. Pourquoi pas? Mais penser que aujourd'hui, à notre époque, les solutions puissent s'imaginer à l'échelle nationale et pas à une échelle donc continentale, à une échelle universelle, bon, avec la complexité de ces problèmes, c'est profondément une régression.
Oh, ça, c'est la question du repli identitaire, national, qui est encore au cœur des débats de politique en France aujourd'hui.
Bien sûr, c'est ce qui structure aujourd'hui largement le débat public.
Je voulais juste vous signaler que Marc Cohen, donc l'homme clé de l'Idio International, est aujourd'hui le rédacteur en chef du journal en ligne Causeur. Et avant de venir vous retrouver, je regardais la page d'accueil de Causeur. Et qu'est-ce qui fait manchette ? Un entretien avec le rédacteur en chef de la revue Élément, d'Alain de Benoît. Donc c'est fascinant parce que vous voyez que 25 ans plus tard, la discussion se poursuit. Ouais. La discussion se poursuit.
Parce que le deuxième tour de l'élection présidentielle aujourd'hui, finalement, oppose une vision mondialiste de la France et donc du monde, hein, des affaires du monde, et puis une vision nationale, et qu'on devrait dire nationaliste, du monde. Donc c'est peut-être encore ce courant-là qu'on retrouve aujourd'hui.
Bien sûr, et il y a un autre itinéraire qui est très intéressant, qui est celui de Florian Philippot, venu du chevènementisme et aujourd'hui numéro 2 du Front National. Donc vraiment cette histoire qui est un peu, qui semble caricaturale et vieille aujourd'hui, a une longue traîne. Voilà. Et aujourd'hui, on retrouve autour du Front National toute une série de gens qui continuent à se déterminer sur ces paramètres-là. Je vous cite un autre exemple qui est très intéressant, qui est celui de l'économiste Jacques Sapir. Jacques Sapir, c'est un économiste, un grand économiste, hein, de l'école pratique de la haute école des pratiques de hautes études, pardon. C'est quelqu'un qui vient de la gauche, qui a été longtemps au Front de gauche. Et c'est quelqu'un qui a écrit il y a quelques mois un texte, c'est très intéressant de lire quel est le titre de ce texte.
Même un passage si vous voulez, on a le temps.
Vers un front de libération nationale.
Libération nationale.
Vers un front de libération nationale.
Et qu'est-ce qu'il met dans le fond ?
Et qu'est-ce qu'il dit dans ce texte ? Il dit, d'une certaine manière, des choses qui font écho à ce que Cruz écrivait. Il dit, la question de l'euro va imposer aujourd'hui des alliances qui transcenderont la distinction entre la gauche et la droite. Et Jacques Sapir, à qui je ne fais pas de procès d'intention, hein, attention, mais Jacques Sapir a participé via une vidéo aux universités d'été du Front National l'été dernier. Donc on est dans ces interrogations-là, c'est-à-dire que Sapir considère aujourd'hui que la sortie de l'euro recompose tout le paysage politique et qu'on doit être prêt à des alliances tactiques avec l'extrême droite s'il s'agit de sortir de l'euro. Donc voilà, ces passerelles, ces discussions se poursuivent encore aujourd'hui.
Ça veut dire aussi que peut-être la plus grande ligne de fracture politique de ces 30, 40 dernières années, c'est donc la question européenne qui peut générer ce genre de mariage et d'alliance complètement improbable et qui génère aussi des fractures au sein de familles politiques.
Bien sûr, mais j'écoutais lundi matin sur votre antenne Manuel Valls, et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mais écoutez, depuis le traité de Maastricht, donc 1992, en gros on a mis sous le tapis tous les sujets qui fâchent, et 25 ans plus tard, on le paye au prix fort. C'est-à-dire, quelle Europe ? Est-ce qu'il faut l'Europe ? Pas l'Europe ? Quelle monnaie unique ? Etc, etc. Il y a même un autre élément en 93 qui est très intéressant, qui fait écho à ce qui se passe aujourd'hui, c'est par rapport à la Russie. Et c'est la présence de ce personnage, Édouard Limonov, écrivain franco-russe, surtout russe, si je puis dire, puisqu'il rentre à l'époque en Russie et qu'il crée à Moscou le Front National Bolchevique. Avec qui le crée-t-il ? Qui est le numéro 2 du Front National Bolchevique ? Un dénommé Alexandre Douguine, qui est aujourd'hui le conseiller de Poutine et le grand théoricien de l'eurasisme. Et Douguine, qui est Douguine ? C'est un ami d'Alain de Benoît. Donc vous voyez qu'on, c'est fascinant, on est sur quand même des courants intellectuels longs et assez puissants, puisque sur un quart de siècle, on retrouve tous ces gens qui méthodiquement construisent leur itinéraire.
Ah, il y a peut-être quelque chose d'un peu dangereux dans les résonances à l'affaire qu'on vient de traiter, donc les résonances aujourd'hui concernant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il y a des gens qui font comme ça des rapprochements. Or, quand on écoute attentivement le discours des deux, il est absolument impossible de trouver philosophiquement le moindre point de convergence, enfin, me semble-t-il.
Oui,
je vous pose la question. Et est-ce que cette résonance qu'on veut ou que certains veulent mettre en avant est juste ou est-ce que non, c'est, est-ce qu'on je pense, c'est complètement à côté de la plaque là.
Je pense qu'on ne peut pas faire, on ne peut pas faire ce mauvais procès à Jean-Luc Mélenchon.
Car il est fait. C'est pour ça que je vous pose la question.
Parce qu'il est fait d'aller draguer dans les eaux troubles de l'extrême droite. Certainement pas. Certainement pas. En revanche, Mélenchon, en théorisant un nouveau type de stratégie politique, qui est celle qu'on appelle d'un populisme de gauche, qui a été théorisé en Espagne, qui a été théorisé en Argentine par par Chantal Mouffe, par Ernest Laclau, etc. D'une certaine manière, va attirer à lui des gens qui seront peut-être plus perméables à ce type d'influence et ce type de brouillage. Je pense que, très franchement, la question ne se pose pas sur la personne de Mélenchon et de son entourage. Elle peut se poser sur quelques électeurs ou quelques militants qu'il peut attirer et qui peuvent être sensibles à ce genre de choses. C'est pour ça que cette affaire de la Russie est assez importante, si vous voulez, parce que si on revient pareil en 93, qu'est-ce qui justifie également ça? C'est les guerres de Yougoslavie. Il faut pas oublier
qu'on a
quand
évoqué
même
d'ailleurs hein, rapidement,
que vous avez évoqué. Il faut pas oublier quand même que Limonov se fait filmer au moment du siège de Sarajevo à côté de Karadzic, qui est aujourd'hui au tribunal de La Haye pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et qu'il vante le bombardement de Sarajevo.
Chef politique des Serbes de Bosnie. Hein,
voilà. Et ça, c'est le Limonov qui écrit dans l'Idiot international. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, toute une partie de la gauche française soutient d'une certaine manière l'entreprise de Milosevic. Il ne faut pas oublier qu'un Marc Cohen ou qu'une Elisabeth Lévy qui dirige aujourd'hui le site Causeur nie toute entreprise de nettoyage ethnique par les forces de Milosevic. Ouais. Et nous explique que le Kosovo est une vaste imposture. Donc là, attention, là aussi on voit des continuités.
François Bonnet, il nous reste à vous remercier pour
ce
passionnant entretien et vos éclairages, en tout cas sur cette affaire, comme ça, qui paraissait appartenir à un autre temps et dont, effectivement, les résonances sont tout à fait saisissantes. Merci.
Merci beaucoup.
Cette affaire sensible aujourd'hui, l'Idiot international, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'histoire de Salman Rushdie et de la fatwa dont il a été victime pour les versets sataniques.